C'est Camus Info.
Radio Camus.
Radio Camus 102.2. Camus Info du vendredi.
Donne-moi des infos. Il semble qu'il soit 19h01 sur la plus rebelle des radios. On est en direct et en stéréophonie depuis le 24 Sergent Blandon. On est encore là, on a encore le FSER et on est encore on air. C'est le Canu Info du vendredi.
Et oui, on est le vendredi 25 octobre. Sachez que c'est la journée mondiale des pâtes.
Incroyable, un de nos ingrédients favoris, si bien sûr.
Et oui, parce qu'on ne vous cache rien. Mais de quoi va-t-on vous parler dans ce Canu Info ce soir?
Donc, sur, dans la rubrique locale, près de Lyon, nouvelle distribution des comprimés d'iode autour de la centrale de Bugey.
Dans Lyon même, il y a une grève contre des suppressions de postes à l'hôpital de la Croix-Rousse.
Et puis, on vous refera un petit état des lieux de cet îlot La Guillotière où il y avait le chat perché et feu, l'annexe et le CG.
Et on y a cru pas trop, mais quand même, ça faisait toujours plaisir d'y croire un petit peu, mais le tribunal a rejeté la demande de fermeture du CRA 2.
Et ensuite, rubrique internationale, les dockers grecs qui ont bloqué le chargement d'un conteneur de munitions destiné à Israël.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans les moins bonnes nouvelles, il y a Meloni, en Italie, qui bâillonne les médias.
Et puis à l'échelle nationale, on vous le disait, on est encore là, on a le FSER, mais peut-être pas tant. Et du coup, on va vous lire un communiqué de Radio Canu.
Et puis le vendredi, c'est aussi la rubrique animaux. On va parler aujourd'hui d'un poulpe qui s'est évadé d'un aquarium néo-zélandais.
Et pour en finir avec notre agenda de la semaine.
Et notre traditionnelle quête, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ACAB, ce truc qu'on voit vachement sur les murs de la ville.
N'hésitez pas à nous appeler pour nous donner vos idées au 04 78 39 18 15. Et bonne écoute.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus
smart. Avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Allez-y, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
Je voudrais qu'on ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici d'envisager la fermeture de ces
bâtiments. En bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les zadistes. On chante, on résiste.
Et on commence cette rubrique locale par un petit message préfectoral. Vous voyez juste le petit message du préfet qui fait peur et qui ne dit pas grand-chose, qui dit juste, qui rappelle à des dizaines de milliers d'habitants et d'habitantes qui vivent tout proche d'une centrale nucléaire puisqu'il propose une nouvelle distribution de comprimés d'iode. Et oui, la préfète de l'Ain a annoncé le lancement d'une nouvelle campagne de distribution de comprimés d'iode aux personnes résidant dans un rayon de 10 km autour de la centrale du Bugey. Alors pourquoi est-ce qu'on distribue de l'iode à des personnes qui habitent à 10 km de la centrale? C'est parce que, alors, je cite la préfecture indinoise, les comprimés d'iode stables permettraient de vous protéger contre les dangers des iodes radioactifs et notamment saturer la thyroïde en iode stable. Le nombre de comprimés à prendre dépend de l'âge ou du poids de la personne. Mais apparemment, c'est détaillé dans la notice présente dans la boîte de comprimés qui sont même valables 10 ans. Ça fait juste très peur. Alors, message en plus du message de la préfecture, s'il y a un problème à la centrale du Bugey, fuyez. Et si vous êtes à 11 km de la centrale du Bugey, fuyez.
On rappelle quand même que c'est les mêmes pastilles qu'ils ont refusé de filer au moment de Tchernobyl. Donc s'ils n'en ont pas donné à Tchernobyl alors qu'il y a eu un problème, c'est qu'il n'y a sans doute pas de problème.
Voilà, alors après on va plutôt aller du côté de l'hôpital et d'une mobilisation qui a depuis ce lundi, donc lundi 21 octobre, des soignants et des soignantes du service de médecine intensive et de réanimation de l'hôpital de la Croix-Rousse sont en grève. Ils ont plusieurs fois manifesté devant le parvis. Et pourquoi est-ce qu'ils sont en grève? Parce qu'ils dénoncent une nouvelle suppression de postes. On voyait des banderoles marquées postes supprimés, soins dégradés. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une dizaine de jours, l'équipe l'équipe médicale a appris la suppression d'un poste d'infirmier pourtant crucial. C'est le poste qui leur a un peu permis de retrouver un équilibre après le Covid. Et c'est un poste volant. C'est quelqu'un qui, du coup, peut aller suppléer là où il y a besoin dans le service. Et c'est surtout le poste qui permet de faire, d'aligner les effectifs sur ceux recommandés par le décret du 26 avril 2022 qui impose un soignant pour 4 patients dans ce service de soins critiques contre 1 pour 4 à 6 patients auparavant. Donc c'est vraiment ce poste d'infirmier volant qui permet du coup une répartition du travail. Mais visiblement, il y a un gros risque que ce poste saute. Du coup, pour l'instant, le service est en grève. Alors évidemment, les grèves dans les hôpitaux, ils sont en grève une demi-heure, ils retournent travailler. Mais il n'empêche qu'ils n'ont pas prévu de lâcher la pression. D'autant plus que ces derniers mois, un autre poste a déjà été supprimé par la direction, celui d'infirmière technique. C'était celle chargée des tâches logistiques en dehors des chambres des patients, comme la gestion du matériel médical. Et c'est un poste qui n'avait jamais été supprimé avant, en tout cas, selon une infirmière qui travaillait depuis plus de 10 ans. Donc les soignants-soignantes voient la casse de l'hôpital public de près, mais n'ont pas prévu de lâcher. Ils ont prévu de tenir bon, en tout cas, c'est ce qu'on sait en cette fin de semaine, si vous avez envie d'aller les soutenir. De la Croix-Rousse, on va passer à la Guillotière. Alors, on ne va pas revenir sur l'expulsion de l'espace communal de la Guillotière. On vous en a déjà parlé. On vous invite à aller voir tous les communiqués qui continuent à sortir sur l'explication de cette expulsion, sur les sons qui ont été produits par Radio Canu à plusieurs reprises sur l'histoire de l'ECG et de l'annexe. Vous voyez, c'est une sorte de gros bâtiment qui a été occupé pendant plusieurs années à la Guillotière, et dans ce même bâtiment se trouve le Chat-Perché. Le Chat-Perché, c'est un atelier de réparation autogéré de vélos qui existe depuis quasiment 20 ans, je pense. Enfin, en tout cas, qui existe depuis vraiment très longtemps.
C'est un des plus vieux. En tout cas, dans la ville, c'est le plus vieux, je pense.
Ouais, en tout cas, je sais qu'ils étaient au Boulon en 2008, qu'ils ont été après à la Friche RVI, enfin, qui ont vraiment bougé, et qui surtout est très lié à l'histoire des squats. Le Chat-Perché occupait, du coup, depuis 2016, sa place dans cet îlot. Je dis occupait parce qu'au printemps 2025, ils vont être relogés par la métropole du côté de Debourg. Évidemment, c'était un signe. Enfin, on sait bien que l'expulsion de l'ECG et de l'annexe amène à une restructuration du quartier. Là, du coup, il y avait un accord entre guillemets, ou en tout cas, c'était su par le Chat-Perché qui va donc déménager dans l'endroit proposé par la métropole. Il n'empêche qu'on peut trouver ça très triste. On peut redire que l'histoire du Chat-Perché, comme j'ai dit, elle est intimement liée à l'histoire des squats, et que du coup, petit à petit, la seule possibilité de continuer à exister est d'accepter d'être relégué à d'autres endroits de la ville, qui en plus, ça sert du discours de la métropole en disant, ah bah tiens, vous allez, pas vous allez boboiser, ils disent, vous allez dynamiser le quartier des Girondins du côté de Debourg. Et du coup, ça laisse un gros goût d'amertume de se dire que pour pouvoir accéder à des locaux, on est obligé quelque part de faire le jeu de la métropole. Il y a toujours espoir de se retrouver un petit Chat-Perché à la Guillotière. Est-ce que ça marchera? Je ne sais pas.
Et quand même, l'ironie de la chose, c'est que ça va être remplacé évidemment par un garage,
par un garage
automobile.
Tout à fait.
Oui, grâce à la métropole qui s'engage à fond pour l'écologie, comme leur couleur politique le laisse penser.
Voilà, c'est déprimant. Voilà, les infos locales sont déprimantes. Hein. Je vais continuer à vous dire des infos déprimantes. Toujours du côté des expulsions, pareil, vous pouvez réécouter les Canu Info de la semaine. Mais pour vous dire que ce mardi, la préfecture du Rhône a procédé à l'expulsion d'un squat qui était situé rue Néret, vraiment pas très loin de la radio, qui hébergeait des personnes migrantes, dont beaucoup de mineurs, sans solution de relogement. Que tout ça ne fait que grossir face à une métropole qui, bon, elle, se dit débordée, renvoie toujours à la préfecture et à l'État, mais qui, de fait, à la veille de la trêve hivernale, se trouve plus prompte à expulser qu'à reloger, ce qui est le cas aussi du collectif Femmes à la rue, hein, qui s'est mobilisé là ce mercredi devant la métropole. J'ai l'impression que ce collectif, il fait des mobilisations chaque semaine pour essayer d'obtenir notamment ce que Sandrine Renal avait promis. Elle avait promis 60 logements dans un bâtiment de la SNCF dans le quartier de Vaise, et puis paf, elle est devenue députée.
Après, Sandrine Renal, elle était quand même plutôt experte en expulsion. Donc,
Tout à fait, mais il n'empêche que du coup, depuis cette promesse qu'elle avait faite au printemps, il y a des mobilisations, la dernière ce mercredi, pour que Sophia Popov, sa remplaçante, communique par la suite, donc en fin de semaine, pour dire que ce bâtiment n'ouvrirait pas. Donc voilà, beaucoup de paroles, comme tu l'as dit, des écologistes et de la gauche sur la métropole. Très peu suivi des faits. Enfin, si, effectivement, il y a des expulsions, on peut dire.
Des faits contraires.
Qui a des faits. Et tout ça pour vous appeler toujours à la vigilance, à la mobilisation, et pour dire qu'il y a des mobilisations. Il y a des mobilisations chaque jour autour des questions de logement et d'expulsion, des questions d'expulsion actuellement dans la métropole de Lyon. Pour finir, du coup, par la demande de fermeture du CRA 2, qui est aussi dans la métropole, qui a été rejetée par le tribunal de Lyon, mais pour dire qu'il y a eu quand même cette tentative. Alors ça, c'était mercredi que ça a été rejeté. Il s'est passé beaucoup de choses autour de la détention cette semaine. Mais alors qu'une nouvelle loi immigration se profile, c'est une décision qui a son importance. Donc ce mercredi 23 octobre, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande du bâtonnier de Lyon de fermer le centre de rétention 2 de Lyon. Cette décision, elle arrive au terme d'une initiative qui est quasi inédite à Lyon, puisque lundi dernier, le 19 octobre, l'Ordre des avocats avait demandé devant les juges la fermeture de ce qui est une prison pour migrants. Et la vice bâtonnière disait « Ce n'est pas une posture politique ni une action de principe. Concrètement, il y a un danger sur le respect des droits fondamentaux dans ce centre. » Donc, choses qui sont dénoncées depuis des années par les militants, militantes, par les associations. Ce sont des prisons pour des personnes qui sont simplement migrantes avec des conditions de vie qui sont inhumaines. Alors, cette action de justice qui est rare, elle n'est pas venue du jour au lendemain, puisque fin 2022 déjà, le bâtonnier de Lyon s'est rendu dans ce qu'on nommait déjà à l'époque le CRA du futur, et parce qu'il devait servir de modèle à bien d'autres. Et on voit bien que de modèle, c'est un modèle d'inhumanité qui est proposé. De fait, malgré les multiples rapports et quand même cet ordre des avocats, qu'on ne peut pas classer forcément à l'extrême gauche, en tout cas totalement, ce centre continue d'exister. On continue à lutter contre. Voilà pour ce petit tour partiel des informations locales, mais pour continuer à les faire exister, pour continuer à vous parler de ces collectifs qui se mobilisent au quotidien, et pour dire qu'on lâche rien.
Et on a une petite musique qui arrive ?
On a une petite musique, c'est un hommage aux dockers grecs qui sont nos héros dans ce qu'on va vous dire tout de suite.
rubrique internationale.
International. Rubrique.
Cronaca internazionale.
Donc, vous avez écouté le groupe de métal Antifa crétois Bellotizer. Les paroles toujours dramatiques, comme c'est le cas avec tout ce qui vient de Grèce, se traduisent à peu près « Le fascisme ne se trouve pas à l'endroit du cœur parce que le sang du peuple ne l'accepte pas ». Comme on le sait, Emmanuel Macron s'est récemment joint aux appels à l'arrêt des ventes d'armes à Israël. Il est en vrai très tendance de le faire et il le sait mieux que tout le monde. D'autres, moins préoccupés par le pillard, joignent le geste à la parole. C'est le cas des dockers grecs. Des dizaines de membres d'un syndicat de dockers grecs ont bloqué la semaine passée le chargement d'un conteneur de munitions destiné à Israël pour protester contre la guerre à Gaza. Le conteneur, arrivé au port de Pirée, contenait 21 tonnes de munitions selon un syndicaliste anonyme. Le cargo, en provenance de Macédoine du Nord, devait être chargé à bord d'un navire sous pavillon des îles Marshall pour se rendre en Israël. Avant l'incident, le syndicat avait appelé les travailleurs à protester et à bloquer cette expédition d'armes. Dans un communiqué sur Facebook, on peut ainsi lire « Il est temps de dire haut et fort que nous ne laisserons pas le port du Pirée devenir un tremplin de guerre ou encore nous luttons pour la paix, non à la participation de la Grèce dans la guerre ». Alors qu'ils arrêtaient le camion, les dockers ont scandé des slogans tels que « Liberté pour la Palestine » et « Pater Nido pour les assassins des peuples du monde ». Sur le conteneur, on pouvait aussi lire les mots suivants « Meurtrier sortez du port » et « Assassin sortez du port ». Il faut dire que ce syndicat portuaire a une longue tradition quand même de confrontation avec les partisans de la guerre dans le monde entier. En juin, par exemple, le syndicat en cause a empêché un autre navire, le MSC Alster, d'apporter le port, d'approcher le port après avoir établi qu'il transportait du matériel militaire à destination d'Israël. Les travailleurs grecs ont également veillé à ce que les armes ne soient pas transportées pour alimenter la guerre de l'OTAN contre la Russie en Ukraine. En avril 2022, les dockers de Thessalonique ont refusé de charger du matériel de l'OTAN destiné à l'Ukraine. Pour rappel, Israël a considérablement augmenté ses achats d'armes au cours des dernières années. Ces mois-ci, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm a noté qu'au cours de la période 2019-2023, Israël a été le 15e importateur mondial d'armes, représentant 2,1% des importations mondiales. En 2009-2013, par contre, le pays ne se classait qu'au 47e position. Et puisque nous avons ouvert le sujet, faisons aussi le point sur les ventes d'armes à Israël dans le monde. Entre 2019 et 2023, les États-Unis représentaient plus de 2/3 de toutes les armes vendues à Israël depuis l'étranger, tandis que l'Allemagne était le 2e plus grand fournisseur avec 30%. Toutes les autres livraisons européennes d'armes létales et d'équipements militaires ont représenté moins de 1% de l'ensemble des achats. Analysons donc la façon dont les pays européens ont répondu aux appels à un embargo sur les armes. En Allemagne, le soutien à Israël est considéré comme partie de sa raison d'État ou Stratraison en raison de son rôle dans l'Holocauste. Cela signifie que Berlin est de loin le plus grand fournisseur européen d'armes à l'État juif. Pourtant, des données montrent que l'Allemagne a freiné ses ventes d'armes à Israël depuis le début de l'année, bien que Berlin ait catégoriquement nié avoir changé de politique. Les données fournies par le ministre allemand de l'économie montre qu'alors qu'il a approuvé 326 millions d'euros d'armes à destination d'Israël en 2023, il n'a approuvé que 14,5 millions entre janvier et mi-août 2024. En France, Emmanuel Macron a assuré, comme on l'avait dit, que le pays avait cessé de fournir ses armes. En théorie, la France n'a pas donc exporté d'armes vers l'Israël depuis 1998. Je me rappelle plutôt Zidane. Toutefois, la France a continué à fournir à Israël des pièces susceptibles d'être utilisées dans sa propre production mondiale nationale d'armes. Israël aurait d'ailleurs augmenté sa production nationale pour réduire sa dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers, alors que les pays retardent ou menacent de cesser leur transfert d'armes vers le pays. Le média d'investigation français Disclose a toutefois révélé en juin que Paris avait fourni quand même des équipements pour la production de drones israéliens. Drones israéliens, c'est pas drôle. Utilisés lors de l'offensive sur Gaza. En Espagne, le gouvernement de Pedro Sanchez affirme aussi avoir suspendu ses ventes d'armes à Israël depuis le 7 octobre. Et en mai, Madrid est allé plus loin en refusant le port d'escale en navire transportant des armes vers Israël sur la pression des partenaires de gauche du gouvernement. Toutefois, encore une fois, des journalistes d'investigation espagnols affirment que des munitions d'une valeur de 900 000 euros ont été exportées vers Israël en novembre 2023 dans le cadre d'une licence d'exportation approuvée avant les attaques de 7 octobre. L'Italie, de son côté, considérée comme le troisième fournisseur étranger d'armes à Israël, après les États-Unis et l'Allemagne, assurait au lendemain des attentats de 7 octobre qu'elle cessait de fournir des armes à Israël. Mais en mars, quand même, le ministre italien de la Défense a reconnu que les commandes signées toujours avant le 7 octobre avaient été livrées pendant la guerre en dépit de la loi italienne interdisant l'exportation d'armes létales vers le pays en guerre. Au Royaume-Uni, finalement, le gouvernement travailliste de Keir Starmer a annoncé en septembre qu'il avait suspendu eux aussi 30 des 350 licences d'exportation d'armes vers Israël après avoir constaté un, je cite, « risque clair que certaines exportations militaires vers Israël soient utilisées dans des violations du droit humanitaire international ».
Ils sont perspicaces hein, quand même.
Ah, tout à fait. Les Royaumes-Unis fournissent toujours à Israël des composantes utilisées dans les avions de combat F-35 utilisés pour cibler la bande de Gaza. Bon, c'est pas mal quand même.
C'est pas mal, et on peut dire qu'en fait il y a toute une astuce de faire du matériel qui peut être à la fois civil et militaire, et du tout de vendre du matériel civil pseudo-civil qui rentre pas dans, dans les catégories de matériel militaire, ce qui permet de dire ah, on vend pas d'armes, mais en vrai ce matériel là il sert à construire des armes sur place, ou carrément à vendre les armes à un autre pays qui lui-même les revendra à Israël et personne n'en est dupe, mais de dire on vend pas d'armes à Israël. En tout cas on sait que la France pratique assez largement ce genre de,
on fait bien de l'ego,
de saloperie. Ouais. Et ben voilà, on est sur les saloperies, on va pouvoir continuer avec ce triste anniversaire là cette semaine. Je crois ça fait 2 ans que Mélanie a pris le pouvoir et était j'ai oublié le nom officiel et du coup je passe pour un âne, mais peu importe, en tout cas est la chef du gouvernement italien élu, mais je crois qu'elle est élue pas, bref peu importe. Du coup ça fait 2 ans qu'il y a l'extrême droite au pouvoir en Italie, finalement c'est bien ça qui nous intéresse, et comme on s'y attendait et comme ne le disent pas un certain nombre de médias, en fait quand l'extrême droite est au pouvoir c'est la merde, et assez lourdement. On vous avait déjà parlé évidemment des modifications de la loi pour les personnes LGBT, et aujourd'hui on va vous parler de comment la presse est muselée de plus en plus. Alors rassurez-vous, pas toute la presse, pas tous les médias, seulement ceux qui pourraient être éventuellement critiques envers le pouvoir, les autres tout va bien, ça roule pour eux. Donc il y a de nombreux médias italiens, et évidemment surtout des médias indépendants, qui disent depuis un petit moment que c'est de plus en plus délicat de faire leur travail, et qu'en fait ils ont de moins en moins les moyens de bosser dans une Italie fascisante. Du coup, bon, c'est bien de le dire, mais finalement il y a quand même l'ONG Media Freedom Rapid Response qui a publié un rapport et qui explique en gros que sur la période de 22 mois qui vient de s'écouler, elle a reçu 193 alertes sur l'Italie, ce qui n'est pas moins quand même que 118 de plus que lors de la précédente période de 22 mois. Donc on a plus que doublé le nombre d'alertes. Et en fait, il y a tout un système bien rodé qui a été mis en place par le gouvernement Meloni, et c'est le recours à l'intimidation par l'usage de procédures judiciaires. Alors, en gros, le but, c'est d'assigner les journalistes et ou les médias devant les tribunaux. Alors ça, ils peuvent le faire vraiment, évidemment, on vous en expliquera quand il y a des enquêtes qui sortent sur des membres du gouvernement qu'on fait évidemment n'importe quoi. Là, ils vont attaquer, mais carrément même, lorsque des journalistes envoient des demandes de contradictoires, la réponse systématique, notamment lorsqu'il s'agit des politiques de la majorité, c'est celle de la menace d'un procès ou d'un dépôt de plainte. Donc en vrai, il y a une personne qui fait son boulot, qui publie pas son article, qui prend quand même la peine d'aller demander, d'aller proposer une voie à l'extrême droite, enfin la peine ou la bêtise, peu importe, et qui se prend du coup en retour, en gros on lui dit si tu sors ton papier, on t'attaque en diffamation ou autre. Alors seulement, là, il y a une multiplication de procédures assez considérable en Italie. Et en fait, ce qui explique les journalistes, c'est que bah, finalement, quasiment tout le temps, ils gagnent les procès. On voit, par exemple, Mediapart est un bon exemple en France de gens qui se font attaquer régulièrement, mais qui, a priori, font quand même un travail un peu journalistique valable et qui, du coup, gagnent tous leurs procès. Seulement, qu'est-ce qui se passe en Italie? C'est qu'ils se font attaquer. Donc, évidemment, bah, déjà, ça prend du temps parce qu'il faut le temps de s'occuper de la plainte. Il faut quand même trouver des avocats si on n'en a pas sous la main, de pouvoir justifier, amener les pièces, nanana. Donc ça, déjà, en vrai, c'est beaucoup de temps qui n'est pas consacré à faire des enquêtes. Mais surtout, c'est que les frais de procédure ne sont pas remboursés, y compris si le journal gagne le procès. Ce qui fait qu'en fait, chaque plainte, en gros, c'est entre 5 et 8 000 euros par journaliste. On estime ça en Italie. Donc en gros, pour chaque plainte, c'est comme si vous preniez directement 5 000 balles à minima dans la poche du journal ou du journaliste. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la nuance, mais peu importe. Donc évidemment, bah, y a tout un tas de pigistes qui se retrouvent, s'ils sont attaqués, ils perdent 5000 balles, ils sont pas du tout cap. Donc ils sont soit tentés évidemment d'abandonner le métier, parce qu'en vrai, pourquoi faire ce boulot si c'est pour diffuser de la propagande d'extrême droite. Mais évidemment, ça génère aussi ce à quoi on s'attend facilement, c'est-à-dire un phénomène d'autocensure, alors qui est certes difficile à chiffrer, mais qu'on imagine assez facilement être très lourd, puisque finalement, si à chaque fois qu'on écrit un truc, en fait, on peut se faire mettre en faillite ou se retrouver endetté envers un État fasciste, c'est quand même la merde. Et effectivement, on comprend qu'il y a tout un tas de personnes qui n'aient pas les moyens matériels de se permettre ce genre de luxe, ou en tout cas, qui ne le fassent pas. Donc voilà, ça déjà, ça vous coûte du temps et de l'argent. Et évidemment, ça oblige à faire moins d'enquêtes ou des enquêtes moins longues ou des enquêtes moins approfondies, donc du travail journalistique de moins bonne qualité. Alors pour un exemple de ça, par exemple, il y a le journal Domani qui n'aime vraiment pas du tout le pouvoir, qui avait sorti une enquête sur le secrétaire d'État au travail qui s'appelle Claudio During... Je suis très mauvais en italien, Duringon, j'imagine qu'on dit en italien, excusez-moi. Donc, en gros, ils avaient sorti une enquête montrant qu'il était mêlé à des affaires avec de l'industriel de l'armement, et oui, c'est le ministre... et du coup... Il y a deux militaires qui se sont pointés au journal pour rentrer et puis aller perquisitionner des trucs. Donc ce à quoi les journalistes ont dit, bah, le secret des sources aux dernières nouvelles, ça existe, cassez-vous. Ils se sont effectivement cassés et la plainte a été classée, ça aurait pu en rester là. Mais en fait non, puisque finalement tout, et c'est là j'ai mélangé deux personnes, mais peu importe, la plainte est classée. Mais quelques mois plus tard, c'est trois journalistes de Domani qui sont à nouveau visés par une plainte du ministre de la Défense après avoir été visés par une plainte de Giorgia Meloni. Et aussi, le journal a été visé par une plainte de la frangine de Meloni qui se trouve être mariée au chef de parti des Frères d'Italie. Donc on voit bien quand même toute cette espèce de micmac typique de l'extrême droite, de gens qui se rendent des services mutuellement. Et donc ils sont visés, donc justement suite à la publication d'une enquête, et c'est là sur les liens entre ce dernier, donc le ministre de la Défense, et les industriels du secteur militaire. Alors c'est un peu rigolo si on veut rire jaune, c'est qu'ils sont accusés d'accès abusif à un système informatique, ce qui est déjà très vague, mais pourquoi pas, mais surtout de ce très grave crime de révélation de secrets. Et oui, et du coup, quand on est journaliste en Italie, si jamais on venait à publier un truc qui n'aurait pas été publié, globalement, on imagine facilement la définition très extensive du secret d'un gouvernement d'extrême droite, et bah du coup, on est évidemment condamnable puisqu'on vient de révéler un secret, ce qui est parfaitement, a priori, contraire à la loi, quand on est un gros facho. Du coup, on se retrouve bah voilà, face à une Italie, et du coup, cette offensive judiciaire, elle est quand même massive, et on peut quand même se rappeler qu'elle a trois effets, c'est-à-dire qu'elle intimide les journalistes qui vont probablement qui vont avoir peur de bosser, ça les met en danger économiquement, et surtout en fait de mettre cette pression, parce qu'en fait perdre les procès, ils s'en foutent, déjà ça fait perdre de la thune aux personnes qui font du vrai travail de journaliste, mais surtout ça fait hyper peur aux sources, et du coup il commence à y avoir des effets de tarissement de sources, une fois encore ils sont difficiles à mesurer, mais des journalistes disent bah en fait les gens ont de plus en plus peur de parler, puisque le secret des sources est de plus en plus faible, et du coup comment garantir ça alors qu'il y a une pression de ouf qui est mise. Voilà, pour conclure cette horreur, on pourra juste mentionner qu'il y a aussi un plus ou moins l'équivalent de l'agence France Presse. Alors mon cas partenaire Eni, c'est l'hydrocarbure, l'électricité, c'est pas des camarades, loin s'en faut, mais enfin bon, ça appartenait à Eni, mais que quand même là il y a un très proche du gouvernement qui est à la tête d'un empire des médias qui voudrait racheter cette agence France-Italie, on pourrait dire, dont j'ai mangé le nom, et que évidemment, bah voilà, on revoit encore
l'agence Italie Presse, peut-être plutôt.
Comment?
L'agence Italie Presse.
Ouais, l'agence Italie Presse. En tout cas, voilà, on voit que là aussi, l'extrême droite essaie de s'emparer un maximum des médias et de museler malheureusement le plus possible tout accès acceptable à une information qui soit pas juste de la propagande de fachos.
Canu Info.
Gendarmerie nationale. Arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
La bêtise n'a pas de limite, mais on est encore là pour la décrypter et pour continuer dans cette veine d'interrogation médiatique et de ce que le pouvoir actuel fait aux médias. On va vous donner lecture, et puis ensuite on fera un ou deux commentaires dessus, d'un communiqué produit par en fait vos animateurs et animatrices préférées, puisque c'est un communiqué de Radio Canu.
C'est nous.
Ouais. Bravo nous, on est capable d'écrire des communiqués. C'est assez rare hein, que Radio Canu écrive un communiqué. Pour ma part, je crois que c'est la première fois que j'ai un communiqué de Radio Canu entre les mains. Il y a sans doute des précédents, mais celui-ci, bon voilà, arrive parce que. Précisément, il y a une actualité qui concerne de très près Radio Canu. Ce communiqué s'appelle « Que 1000 radios libres fleurissent » et il commence ainsi. Vendredi 11 octobre, l'annonce du projet de loi finance du ministère de la Culture annonçait retirer 30% des aides au fonds de soutien à l'expression radiophonique locale, qu'on appelle le FSER, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, soit près de 10,4 millions d'euros qui concernent directement les radios associatives. Dès la libéralisation des ondes en 1981, le FSER, créé l'année suivante, donc en 1982, permettait aux radios non commerciales de pouvoir émettre sur la bande FM. Aujourd'hui, le FSER représente la majorité des ressources de plus de 750 radios associatives. Ça peut représenter jusqu'à 80% de leurs ressources en fonction du nombre de salariés ou du type de diffusion. Le couperet financier se produit alors que les pressions pour supprimer la bande FM telle qu'on la connaît au profit de la radio numérique terrestre, pas du tout terrestre, la radio numérique tout court, c'est ce qu'on appelle parfois le DAB+, peut-être que certains et certaines d'entre vous nous écoutent en DAB+, c'est assez peu probable puisqu'on ne diffuse pas sur le DAB+. Et il y a quand même actuellement une multiplication des pressions hein, pour passer au DAB+. Cette évolution circonscrirait, passage au DAB+, circonscrirait encore davantage l'usage de la radio en empêchant notamment, de fait, l'usage pirate et libre des ondes, usage pirate et libre des ondes qui, en fait, ont fait des radios associatives, ceux qu'elles sont aujourd'hui, à l'époque on parlait surtout de radios libres. Il faut aussi souligner le caractère contradictoire et cynique d'une mesure qui vise à supprimer l'ensemble des moyens de survie des radios associatives, tout en criant sur tous les toits les vertus de la liberté d'expression. On nous rebâche beaucoup ça, les gouvernements ils adorent la liberté d'expression quand on dit que ce qu'ils font est génial. Le gouvernement dissimule ici en fait sa volonté de mettre à mort les radios libres au profit d'une privatisation totale du champ médiatique. Et cette annonce, elle s'inscrit aussi dans un contexte plus large d'austérité économique et d'accaparation des médias qui se poursuit jusque sur le terrain des radios associatives. Alors, outre la disparition d'un secteur d'emploi local, hein, c'est à peu près, d'après les syndicats de radio, 750 emplois qui sont menacés, la baisse des aides du FSER entraîne en fait la disparition de plateformes qui permettent, comme notre radio et notre émission en particulier, l'existence de discours contestataires et critiques vis-à-vis des positions actuelles du gouvernement et de la fascisation générale du débat public. Et le communiqué de Radio Canu, signé par ailleurs entre-temps par Radio Cause Commune, une radio camarade d'Île-de-France, se termine en disant « Nous exigeons un fonds de soutien inconditionnel, une augmentation du fonds de soutien pour permettre l'émergence de nouvelles radios associatives, garder la bande FM libre et accessible pour toutes et tous. » Alors une ou deux petites précisions par rapport au contexte actuel autour du FSER. Il y a notamment dans les exigences un fonds de soutien inconditionnel et ça c'est notamment né en fait des débats parlementaires, vous le savez peut-être approximativement, mais avant le vote de l'Assemblée puis du Sénat relatif en l'occurrence au projet de financement, au projet de budget. Alors, il va probablement pas y avoir de vote, hein. Il y aura probablement un 49-3 à l'Assemblée nationale, mais il y aura sans doute un vote au Sénat. En fait, il y a des commissions qui se réunissent sur les différents articles pour en débattre, pour proposer des amendements, etc. Parmi les amendements qui ont été proposés et votés jusqu'ici, alors il faut savoir que le rapporteur des articles qui concernent le fonds de soutien à l'expression radiophonique, c'est quand même un mec du Front National, Ballard. Lui, il se cache pas du fait que globalement, il aimerait bien voir crever hein, les radios associatives. Hein, il est assez efficace là-dessus. Et contre son avis, en fait, a été voté un amendement qui demande que les 10,4 à 12 millions, en fait, c'est pas très clair, d'euros qui devaient être supprimés du FSER soient rétablis, c'est-à-dire que le FSER soit finalement au même niveau qu'en 2024. Il y a eu un autre amendement qui n'a pas été voté, mais qui est quand même assez symptomatique, lui-même proposé, soutenu par ce fameux Ballard, qui disait qu'il fallait faire du tri et que pour faire du tri, il fallait s'intéresser aux radios qui n'étaient pas dans le champ républicain. Donc on a compris, hein, c'est le truc qui revient maintenant de manière systématique. Le champ républicain, c'est
de la droite à la droite.
De la droite à la droite. Et puis tout ce qui en sort n'en fait pas partie. Et tout ce qui en sort, faut quand même pas se mentir. Hein, la question des valeurs républicaines, elle est quand même surtout là pour stigmatiser, attaquer et réprimer les populations musulmanes et secondairement les militants et militantes un peu trop de gauche notamment, quoi.
On peut quand même se dire aussi que le simple fait de maintenir le FSER au niveau d'avant, compte tenu de l'inflation en ce moment, ça revient à baisser les fonds des radios. Et peut-être moins pour une radio qui n'a pas de salariés, mais pour des gens qui ont des salariés, si on a envie de les payer correctement, qu'ils puissent vivre correctement, etc. En tout cas, même avec ça, ça reviendrait à quand même baisser les moyens des radios associatives, quoi qu'il en soit.
Tout à fait, c'est une situation qui est quand même compliquée. Il y a un certain nombre de radios qui sont dans des situations économiques déjà absolument difficile, notamment pour ces questions d'inflation. Globalement, c'est évidemment une inquiétude générale. Donc pour l'instant, les votes des amendements, ils sont plutôt rassurants du côté de la commission de débat de l'Assemblée. Cependant, ça n'est absolument pas une garantie que le FSER va être maintenu à son niveau. Puisqu'il va y avoir déjà la question du vote ou du 49-3, comme ça va très 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 probablement être un 49-3, en réalité, lors d'un 49-3, le gouvernement, le Premier ministre, en fait, il peut resoumettre les articles qu'il veut. C'est-à-dire qu'en fait, il peut notamment s'asseoir sur les amendements qui ont été votés en commission paritaire. En fait, c'est vraiment une annulation totale du débat parlementaire. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que derrière, ça passe au Sénat. Et il faut quand même noter dans les choses potentiellement un peu inquiétantes que donc ce fameux Ballard qui disait il faut davantage de contrôle du champ républicain parce qu'il faut quand même faire des économies et on n'a qu'à faire des économies sur les gens qui sont pas d'accord avec le Rassemblement National, c'est plutôt une proposition qui a séduit la ministre en charge du dossier, Rachida Dati. On vous invite quand même à être très 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 attentif. Il pourrait y avoir des mobilisations. En tout cas, il y a ce communiqué écrit par Radio Canu, co-signé donc par Radio Cause Commune, on espère par d'autres radios par la suite. Bon, on vous tiendra évidemment au courant de l'avancée de ce dossier un petit peu capital quand même pour nos ondes.
Oui, puis plus largement, big up à toutes les associations, hein, parce que c'est vraiment tout ce qui n'est pas rentable. Enfin, on rappelle que le fonds de soutien à l'expression radiophonique, c'est pour les associations qui ne se font pas du beurre sur des pubs commerciales et du coup qui ne sont pas rentables. Et c'est un peu tout le système français associatif, en tout cas culturel et un peu... je sais pas comment dire, médico-social, quoi. Enfin, une grande partie du secteur associatif qui n'est pas censé être rentable, qui fonctionne sur des subventions, et plus globalement le monde de la culture et monde de l'entraide. Et c'est aussi des endroits, des associations où aussi on apprend à s'organiser ensemble de manière autogestionnaire ou non par ailleurs. Mais enfin, c'est quand même plus largement tout ce monde-là qui est très frontalement attaqué depuis plusieurs années, et encore une fois avec ce budget, et que c'est assez inquiétant.
Oui, tout à fait, parce que là, on parle strictement de ça, parce que ça nous concerne, oui, à Radio Canu, c'est nos...
Ça nous inquiète.
Ça nous inquiète. C'est 80% de nos finances à Radio Canu, qu'on peut le dire aux auditrices et aux auditeurs. On est dans une situation où nous, on a pas de salariés, ce qui est un peu une particularité. Donc déjà, ça menace pas l'emploi de quelqu'un, mais c'est pas une raison pour ne pas être inquiet, parce que bon, ça menace quand même notre mode de fonctionnement. Mais effectivement, en plus, là, c'est un budget ridicule, mais cette politique d'austérité brutale qui arrive actuellement, elle va, même si ça épargne l'année prochaine les radios, ça va toucher bien d'autres champs de manière tout aussi violente. Et c'est un peu la problématique aussi en termes de mobilisation, qui est de dire oui d'accord, on se mobilise pour nos radios parce qu'on croit à ça et à la nécessité de pouvoir exprimer des propos contradictoires et notamment de défendre des positions politiques, mais il y a des champs qui sont quand même très très en danger et qui sont tout aussi importants pour la vie collective.
Et ben sur cette note passons à une autre note.
Vais revoir un Rouminet.
Bon, l'ambiance dans les studios de Radio Canu pour le Canu Info, c'est comme d'hab, c'est un peu nul. Hein, on vous raconte que des trucs, que des mauvaises nouvelles.
N'écoutez plus,
arrêtez. Si d'ailleurs vous arrêtez de nous écouter, le racisme absolument présent partout, la guerre en Israël, en Palestine, au Liban et tout un tas d'autres guerres vont s'arrêter. Donc je vous conseille d'éteindre votre radio. Il y a des bonnes nouvelles et on arrive effectivement dans la rubrique animaux. Donc la rubrique animaux, c'est aussi un peu la rubrique qu'on a introduite pour les bonnes nouvelles. Et cette fois, une nouvelle incroyable. On va vous parler d'un poulpe. Alors, on va quand même faire un petit peu d'informations sur qu'est-ce qu'un poulpe finalement. Et c'est un animal incroyable parce qu'il a un système nerveux extrêmement complexe, des techniques de camouflage de malade et une mémoire et une capacité d'apprentissage d'éléphant. Absolument. C'est pourquoi on parle de poulpe éléphant. Et le poulpe est considéré comme l'un des invertébrés les plus intelligents. Et oui, la pieuvre possède en effet un cerveau d'assez grande taille et des millions de neurones disséminés à travers ses longs bras agiles, donc les tentacules. Il y a environ 10 000 neurones sur chaque ventouse de tentacule. Ça fait à peu près 500 millions de neurones par poulpe. Et c'est notamment parce que c'est un animal très intelligent, que c'est un animal qui vit très 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 mal l'élevage, notamment à des fins d'alimentation humaine.
Ça peut jouer avec vous sur la plage et tout, ça peut faire des blagues, les poulpes. Enfin, ouais,
c'est vraiment des animaux très 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 intelligents.
Du coup, ça veut dire que c'est des niveaux complexes d'interaction.
Ouais. 500 millions de neurones, c'est beaucoup plus qu'Eric Ciotti par exemple. Enfin, et donc,
c'est 500 moins 1, 500 millions moins de plus qu'Eric
Ciotti. C'est très curieux et ça a beaucoup de neurones et c'est gentil.
Tout à fait. Et ce cerveau évolué, il permet aux poulpes de résoudre des problèmes, notamment ils sont capables de résoudre des problèmes quasiment mathématiques. Ils peuvent accumuler des connaissances au fil de leur expérience. On sait que c'est des animaux qui ont une mémoire, qui enregistrent, etc. Ouais. Ils savent utiliser des outils pour faire leurs trucs, donc c'est quand même incroyable. Et ils ont aussi un autre truc assez fou, ils ont des chromatophores. Les chromatophores, c'est ce qui leur permet en fait d'adopter des techniques de camouflage. Ils peuvent changer de couleur, de texture, etc. et se fondre totalement dans leur environnement. Alors ça, à l'origine, c'est fait pour évidemment échapper à des attaques notamment de chasseurs humains. De fait, de son système nerveux complexe, la pieuvre est aussi un animal assez curieux, hein, qui explore beaucoup son environnement, notamment quand elles sont en captivité et qu'elles s'emmerdent. Et du coup, il repère un petit peu par où tout passer. Et il y a une pieuvre incroyable qui s'appelle Inky. Inky, évidemment, hein, qui veut dire encre en anglais. Donc là, la poulpe, c'est incroyable. Dans les zoos, on donne des bons noms aux animaux.
Original.
Oui. Inky, qui était donc un peu un poulpe star de l'aquarium de Napier. Donc Napier, c'est en Nouvelle-Zélande. Et en fait, il a pris la fuite dans la nuit, il y a quelques jours. En fait, il s'est faufilé dans un petit interstice oublié auquel n'avait pas trop fait attention les personnes de l'aquarium de Napier, et il a rejoint l'océan Pacifique par un tuyau de drainage situé en fait à 4 mètres en dessous de son réservoir. Ils ont retrouvé en fait des traces gluantes qui montrent par où il est passé sur le plancher de l'établissement, et elles ont permis en fait de retracer son périple le long d'un tuyau de drainage, puis ensuite en fait en gros dans les égouts qui vont dans la mer. Les pieuvres elles peuvent passer dans des tout petits espaces. C'est un truc qu'on n'a pas dit, mais c'est incroyable. Ça peut se plier complètement en fait jusqu'à la taille de sa bouche, la bouche étant la seule partie rigide de son corps, un peu comme si nous, on pouvait passer dans un espace de la taille de notre tête déjà, ce serait incroyable. Et donc, en gros, ça peut s'enfuir facilement. Et les évasions de poulpes, en fait, c'est assez récurrent. C'est-à-dire, dans les aquariums et les zoos, ça arrive assez régulièrement. Il y a pas mal de ce type d'évasions qui sont constatées. Et les capacités que j'ai décrites précédemment leur permettent de déjouer les systèmes d'enfermement humain, les systèmes de surveillance, etc. Et donc, de nombreux aquariums ont déjà été témoins de telles évasions et ils ont été bien tristes à cause de l'agilité et la débrouillardise des poulpes. Alors, bravo Inky, nage bien, camarade, le vieux monde est derrière toi.
J'étais pas prêt, mais.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est.
L'agenda !
Et alors oui, qu'est-ce qui arrive avec l'automne et le changement d'heure ? Comme chaque année, c'est le Salon du Livre Libertaire de Cluny, c'est sa 16e édition, sur les thèmes de migration, autour d'une trentaine de maisons d'édition, de librairies indépendantes et de collectifs libertaires, c'est hyper sympa. Donc si vous avez envie d'aller cueillir les champignons ce week-end et vous balader dans la nature, je vous conseille d'aller du côté de Cluny et passer au Salon du Livre Libertaire. Si bon, vous dites non, mais quand même, la Saône-et-Loire, rudasse, et que vous préférez aller en Ardèche.
Je savais même pas où c'était Cluny.
Eh bien, c'est possible, puisque vous allez pouvoir aller à Saint-Péray, en Ardèche, où des habitants et des habitantes et des militantes lancent une occupation et s'installent dans les arbres contre une déviation routière. Et donc, c'est parce que la communauté de communes de Rhône-Croussolles tente de précipiter le commencement des travaux de la déviation de la RD 86 à Saint-Péray. Donc, comme je vous l'ai dit, des habitantes et des militantes s'organisent depuis la semaine dernière pour occuper les lieux et ainsi préserver une biodiversité exceptionnelle. Du coup, voilà un autre endroit où passer votre week-end. Vous avez le choix entre l'Ardèche et donc la Saône-et-Loire. Vous vous dites vraiment non, je ne me déplacerai pas, pas de soucis. On peut vous proposer demain d'aller à la Griffe. Normalement, vous connaissez le chemin. C'est à la Guillotière à 15h pour rencontrer Paola Pigani qui va présenter son livre « Il dansait le dimanche ». De quoi ça parle ? Entre Vaux-en-Velin et Villeurbanne à proximité de Décines, l'usine créée par la société Soie Artificielle du Sud-Est, plus connue dans la région sous le nom de TAS, ça veut dire Textile Artificiel du Sud-Est, était située sur un emplacement correspondant à l'actuelle salle de concert de la Rayonne et d'un lieu appelé l'Autre Soie. Et du coup, ça va être sur... À partir de cela, dans les années 30, tout un roman écrit par Paola Pigani qui va venir aussi discuter des conditions de vie de ces ouvriers et ouvrières et de la transformation de ce quartier-là. Ça a l'air hyper intéressant, donc je rappelle, rendez-vous à la Griffe demain à 15h.
Les ouvriers et ouvrières avaient schématiquement des conditions de merde, hein, parce que c'était quand même
du spoil.
La construction d'habits en plastique, hein, parce que c'était ça leur truc à la TAS. Et qui nécessitait notamment de laisser énormément d'humidité. En fait, c'était complètement des conditions tropicales. Et le tout en respirant évidemment des petits produits chimiques sans aucune protection, car plus de fun.
Oui, c'était une main-d'œuvre principalement étrangère, soit originaire de Turquie, de Pologne ou d'Italie, et qui travaillait effectivement dans des conditions très difficiles, puisqu'il y avait aussi une cadence horaire et hebdomadaire intense. Et comme tu l'as dit, la question de l'humidité et des produits chimiques.
Pour faire des pulls moches. Voilà.
Tout ça sera donc discuté. Migration et exploitation demain, 15h à la Griffe. Évidemment, malheureusement, mais en tout cas, toujours rassemblement pour stopper l'agression israélienne en Palestine et au Liban. Toujours demain à 15h, place de la République à Lyon. Je pense qu'il est même possible de réussir à faire les deux. Du coup, mobilisation qui est maintenue et qui a toujours besoin de monde. Dimanche, jour de repos, bien sûr, nous passons donc au lundi. Lundi, comme souvent, il y a une causerie au bar des clameurs, on vous en parle régulièrement. C'est à 19h. Au programme de lundi prochain, le 28 octobre, ce sera une causerie libre sur le sujet normes binaires de beauté, comment le capitalisme façonne nos corps. Eh ben, c'est déjà pas mal, hein, parce qu'on est en vacances, donc pas un agenda trop chargé. On vous conseille d'aller sur Ville Morte si vous avez plutôt envie d'assister à des concerts. Oui, voilà, j'ai rien d'autre à vous annoncer, je m'arrête là.
sort dans la cause.
Radio Canu.
Bonjour, je m'appelle Pierre. J'ai 2 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire à Cannes.
Canu Info du vendredi.
Salut, eh ben écoute, ACAB, ça veut dire plusieurs choses, je crois, aujourd'hui, mais ça peut vouloir dire Athènes crame, les armes et les balles.
Pas mal.
Et ça peut aussi vouloir dire l'aquarium cassera, l'animal se baignera.
Oh, c'est trop... c'est poétique, quand même.
Des ACAB poétiques. On a vraiment,
le ACAB haïku, c'était...
Le ACAB haïku, ouais. Wow. Non, franchement, il est beau, celui-là, on pourra le mettre sur Internet.
On pourra le mettre sur Internet. Eh bien, merci pour votre créativité. N'hésitez pas les semaines qui suivent à nous appeler au 04 78 39 18 15 pour nous dire ce que ça veut dire ACAB.
Et puis, bah, le Canu Info, c'est fini. Dans pas très très longtemps, il va y avoir de la musique douce et vous allez pouvoir vous endormir tranquillement en écoutant Noise Pollution. Et bah, comme on a un petit peu de temps, en plus, on va pouvoir squatter les bandes continues avec une musique arbitrairement choisie. Et en tout cas, bah, le Canu Info, ça revient pas plus tard que vendredi prochain pour le Canu Info du vendredi et évidemment tous les soirs de la semaine pour les autres.
Yes, salut, bonne soirée.
À la semaine prochaine. Ciao.
Au revoir.